Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Imagine-t-on le général de Gaulle être Kemp ? Eh bien oui. Suzanne Sontag, qui a pris le sujet au sérieux en 1964, le dit bien, le Kemp, c'est une glorification du personnage, les paroles qu'il prononce n'ont aucune importance. Et de citer à côté de Greta Garbo, Richard Strauss ou encore King Kong, le général de Gaulle. Mais est-ce aussi simple que ça ? Suffit-il de se moquer de ce qu'on dit pour être Kemp ou faut-il autre chose ? Qui peut donc prétendre être Kemp et comment le devenir ?
Merci, c'est la wow.
Kemp ou pas Kemp, on vous raconte l'histoire de cette sensibilité culturelle, pas si frivole que ça.
Le Kemp, il faut être capable de voir la façade de la vie. Soyons un peu philosophiques, ok? Il faut être capable de voir l'absurdité de la vie d'un point de vue extérieur à vous-même. L'idée des dragues, c'est le Kemp. Parce qu'on dit, je ne suis pas ce corps. Je suis en fait Dieu en drague qui joue à l'humanité. Alors quand vous comprenez ça, que toute l'Église dise « Amen ». Quand vous comprenez ça, vous pouvez rire de l'absurdité. En seconde, mon professeur m'a dit « Ne prends pas la vie trop au sérieux ». Et c'est ça le Kemp. C'est voir l'absurdité de cette vie de fou. Vous avez lu les journaux récemment ? C'est Kemp.
Bonjour Alice Pfeiffer.
Bonjour.
Vous êtes critique de mode, notamment pour le Vogue français et américain et aussi The Guardian. Vous êtes aussi exécutive éditeur du magazine Nylon. Vous l'avez bien
fait.
On dit comme ça en français.
Nylon.
France. Et vous avez écrit Sur le moche, le goût du moche, paru aux éditions Flammarion. Alors, on vient d'entendre RuPaul. RuPaul, c'est un peu l'emblème du Kemp. Alice Pfeiffer, avant de revenir sur ses propos, est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
RuPaul ?
Oui.
C'est une personne qui a introduit le drag queen, qui était une pratique communautaire queer, qui joue à un, ce qu'on appelle ça, déguisement ou autre de genre. Il y a drag king, il y a drag queen. Mais c'est surtout une pratique qui permet de dévoiler l'artificialité de chaque rôle de genre. C'est une façon de dire, j'ai mis mes cheveux pour faire fille. Et de jouer de façon générale à rejouer, déjouer, s'amuser avec la performance intrinsèque au genre et donc en prendre une conscience pleine. Ce qui est intéressant avec RuPaul, c'est qu'il l'a emmené dans la culture mainstream. Donc il y a des stars absolument immenses qui viennent au Drag Race, et il a sorti des communautés pour en faire un art de vivre finalement et révéler qu'il peut y avoir une dimension Kemp et une dimension drag à toute identité de genre.
Donc drag et Kemp, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Alors quelle est la différence entre le drag et le Kemp ?
Le drag, c'est un genre de théâtralité. C'est dire je vais me déguiser en pour te montrer que tout ce temps-là j'étais déjà déguisée en réalité. Peut-être que je deviens moi précisément au moment où je me déguise, je suis faux real comme on dit, authentiquement faux. Je deviens exactement moi-même. Une fois perruque, maquillage, talon aiguille, une fois que j'ai le nom que j'ai choisi, c'est là, c'est exactement le naturel qui est le plus factice parce que je suis née dedans, je n'ai pas forcément voulu. Donc c'est un art avec des chansons, avec des performances, avec...
C'est à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est drag queen, d'autres moments où on ne l'est pas.
Ça vient aussi de la culture de cross-dressing anglais, c'est une pratique de scène, il y a une émission qui s'appelle Drag Race France en ce moment.
C'est ça, ouais. Donc, d'ailleurs qui ressort aujourd'hui, c'est la saison 15 qui débute aujourd'hui de RuPaul Drag Race sur MTV aux États-Unis, plus un nouvel album de RuPaul.
Et la saison française qui a extrêmement bien marché, avec des grands créateurs de mode qui sont allés, que ce soit Iseut, Olivier Rousteing, Ami, Alexandre Matussi, donc qui ont vraiment montré qu'il y avait une qualité finalement proche du luxe et de la mode qui est exactement où la performance devient un devenir, en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, mais qui est figé sur un moment théâtral pour finalement revenir à sa vraie vie, entre guillemets, se demander où était le vrai ou le faux à tout ce moment-là. Et le camp, c'est l'attitude qui en découle. C'est-à-dire, c'est se dire, pour reprendre ce que Marc Auger a écrit sur le tourisme et a écrit sur Disneyland, et il a une expression que j'aime beaucoup, il dit c'est appréhender la vie au futur antérieur. Et c'est de se dire que tout ce temps-là, on prépare la bonne histoire à raconter aux copains. On prépare en avance le cliché vu de l'extérieur, c'est se raconter à la troisième personne. C'est de se dire, quand on n'est ni dans le mime, ni dans l'opposition, ou dans le désir, ou dans la séduction, il y a une troisième grille de lecture qui serait celle d'une troisième voix bienveillante. De l'ami bienveillant qui va nous trouver par le futur hilarant, qui envoie des punchlines, des références un peu à une communauté, en plus que la communauté de l'échange littéral.
Donc par exemple, là, on est en train d'échanger, Alice Weifer, si vous adoptiez une attitude camp.
Mais je pourrais vous dire que je suis venue en manteau, à cheveux, tout ce temps-là, avec des crocs qui clignotent, elles-mêmes, qui sont baroques et techno, qu'on ne le voit pas à l'écran, mais que moi je le sais, je confirmerai, que j'ai un diendl BDSM inspiration Shakira, que c'est mon petit secret à moi parce que ça ne s'entend pas, mais que tout ce temps-là, peut-être qu'on a transformé la situation en moment camp. Peut-être qu'il y a un chapeau
de forme. Donc c'est s'auto-commenter,
c'est
un peu du métadiscours.
C'est un métadiscours. C'est quelque chose qui, pour moi, vient de peut-être de la culture anglo-saxonne, qui a une place qui n'a pas, même étant moitié britannique, qu'on appelle les self-aware emotions. Et les Anglais donnent une importance particulière à la culpabilité, à la honte, ce qu'on dit self-awareness, self-pity, self-conscious. Et il y a un mouvement de réflexivité qui en devient presque drôle, qu'on voit par exemple dans toute la télé-réalité anglaise, où une des candidates, par exemple, sur Love Island a dit « Oh, this is my dress to look hot, j'ai mis ma robe pour faire belle. » Et ça fait partie de l'humour anglais. On va rater une blague et dire « Oh, that was just me trying to be funny. » Ça, c'est moi qui essaie d'être drôle. Bon, raté.
C'est plutôt sur des émotions quand même qui nous mettent un peu en échec.
Qui nous mettent en échec.
La honte, la culpabilité, une blague ratée.
Qui sont transcendées en gestes magnifiquement artistiques. Et si on se rattrape, on s'auto-rattrape en plein vol, finalement, ça devient une théâtralité magnifique du quotidien. C'est d'ailleurs dans le voguing. Est-ce que j'ai le temps d'expliquer ce qu'est le voguing?
Dites-le quand même en deux mots, le voguing.
Le voguing, c'est une pratique qui descend des communautés afro-descendantes et latino en Amérique qui était littéralement, si on rêve de se voir dans Vogue, c'est des chorégraphies qui reprennent des gestes pour faire comme si on était dans Vogue, et finalement c'est devenu un système.
C'est des pauses,
mais qui sont devenues connues aussi, du coup, qui sont également retrouvées dans le Vogue, du coup c'est magnifique. Mais il y a un des moves qui est hyper intéressant, c'est la chute qui n'en est pas une. Et on voit la personne glisser qui se rattrape majestueusement, et tout ce temps-là on se demande est-ce qu'elle a vraiment glissé, pas vraiment glissé, mais c'est ce tour de force-là qui est finalement le camp.
Et est-ce que le camp, c'est aussi momentané, éphémère, un petit peu comme on l'a dit pour le drag, c'est des moments de performance, est-ce qu'il y a certains moments où on est camp et d'autres moments où on l'est pas?
Oui, je pense que c'est absolument, c'est des moments de survie.
On peut pas être tout le temps camp.
Je pense qu'on se coupe des autres, du coup, si on est tout le temps et on est juste dans sa bulle ou sa tête. Mais je pense que c'est un art général de vivre, et c'est une capacité à se sortir ou s'extraire et réinventer immédiatement une situation, effectivement, qui aurait pu être compliquée ou douloureuse. Je pense, par exemple, à une personne qui est camp, parce qu'on n'a pas besoin d'être littéralement queer ou LGBT pour être camp. Christine Quinn dans Selling Sunset.
Alors, il faut que vous nous...
Christine
parce
Quinn.
Que pour vous, c'est une référence
voilà.
Évidente.
Évidente. Christine Quinn est une personne qui fait de la télé-réalité, qui a l'air d'une Barbie femme d'affaires, qui vend des maisons en Bitcoin à Los Angeles. Et son amie vient lui dire, elle lui dit « Qu'est-ce que tu es vulgaire ?» Elle me fait « Oh, I know, thank you !» Elle lui dit « Qu'est-ce que tu es vulgaire ?»« Oui, merci, j'adore !» Et c'est affreux, elle me dit « Effectivement, j'ai tout fait pour !» Et c'est créer un bouclier à partir d'une agression pour en faire un geste sublime, quelque part. Ça va être Kim Kardashian, où on va lui dire qu'est-ce que ça peut être ? Elle s'est fait attraper avec sa sextape, on lui a dit « Qu'est-ce que tu es vulgaire ?» Elle fait « C'est ma marque de fabrique !» Et c'est tout petit moment de rattrapage où elle en est devenue une icône queer, parce que
c'est une manière de renverser le stigmate, finalement. C'est que ce qu'on va nous reprocher, on l'anticipe. Donc, les moments de honte, les moments de culpabilité, les moments de vulgarité, on va tout de suite dire...
Ah, je suis un grand génie.
Ça vient de moi, en fait. Je l'avais travaillé.
J'avais une longueur d'avance, en fait. Tu ne l'as pas vu, mais tout ce temps-là, absolument, je me suis déguisée en Karl Marx, qui voulait secrètement mettre de la lingerie fine. Je fume des cigares quand personne ne regarde dans mon bain parce que je suis, en fait, grandiloquente et formidable. Donc, c'est vraiment se créer un personnage sur le tas.
Et comment expliquez-vous, Alice Weifer, que le camp soit devenu peut-être quelque chose de plus à la mode, de plus tendance. On a parlé de RuPaul, mais vous avez cité un certain nombre de personnalités qui font partie de la culture. Kim Kardashian, Christine Quinn, que moi je ne connaissais pas, mais on pourrait citer Fleabag, la série anglo-saxonne qui fonctionne beaucoup là-dessus, sur les moments de honte, de regard caméra. Pourquoi cette tendance du camp ?
Alors, il y a plusieurs choses, je pense, que c'est reprendre la main sur une culture de l'image qui est absolument terrifiante. Les enfants se reconnaissent sur des photos plutôt que jamais. Ils font le geste zoomé sur des livres en papier. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que je vais vous lire, de Roland Barthes, que je trouve très intéressante. C'est Roland Barthes par Roland Barthes. Et il décrit l'horreur de découvrir un cliché de lui-même. Et de découvrir qu'il s'est figé dans quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Est-ce que du coup, est-ce qu'il est en train de performer quelque chose ? Mais il se sent tout à coup mis à nu une fois qu'il est en photo. Et il dit l'adjectif supporte mal toute image de lui-même, il souffre d'être nommé, il considère que la perfection d'un rapport humain tient à cette vacance de l'image, abolir entre soi, de l'un à l'autre, les adjectifs, un rapport qui s'adjective est du côté de l'image, du côté de la domination, de la mort. Et donc c'est déjouer le fait qu'on est pris en photo, qu'on est soi-même un espace visuel. Et si on veut se plonger et citer Judith Butler, parce qu'il faut toujours citer Judith Butler, Judith Butler parle notamment de spaces of appearance. Et elle dit, on sera on est un espace d'apparition. On est un espace d'apparence. Et on est voué à apparaître visuellement. Et ça, c'est malheureusement, ce qui suit dans la réalisation de la performativité, c'est qu'on est aussi regardé en retour, c'est qu'on est, on vit également par une multitude de reflets, tout particulièrement à l'heure de toute surveillance possible. Et qui prend l'exemple, par exemple, des slutwalks. Et les slutwalks, c'est des filles qui ont été, c'était des moments de MeToo, on leur a dit, vous l'avez pas volé, vous étiez très vulgaire, et les filles se sont habillées en très très vulgaire. Et finalement, ça devenait presque un moment mode extraordinaire. C'était des filles en talons aiguilles, en string apparent, en push-up, qui disaient, ou pas. Et donc l'identité visuelle est centrale dans toutes les manifestations, dans toutes les communautés minorées. Il y a toujours un jeu de déjouer toutes les attentes possibles, et ça rejoint un propos politique. Donc
d'où la légitimité, ou en tout cas le fait que fatalement la culture camp soit une culture d'aujourd'hui, parce qu'on est dans une culture de l'image.
On est une culture de l'image, on est une culture de l'hypersurveillance, on est une culture
du commentaire,
de réflexivité paniquée, parce qu'on peut se faire absolument call out ou shamer, comme on dit, ou call out, c'est-à-dire qu'on a la honte ou la culpabilité sur les épaules, c'est-à-dire qu'on se fait tweeter ou on a un mauvais selfie qui sort de nous, mais on est en échange permanent, en ping-pong permanent entre ce qu'on a voulu dire et la façon dont les dents acérées d'Internet ont pu interpréter ça, détourner ça en une fraction de seconde. Et du coup, c'est vrai que c'est intégré dans les formes d'art populaire. Ce qui est intéressant avec Susan Sontag, c'est de voir comment ce qu'elle dit s'intègre à aujourd'hui. Et les formes les plus dévaluées, par exemple, l'endroit où on le voit le plus, ça va être effectivement la télé-réalité. Ça va être des Christine Quinn, des Kris Jenner, qui subliment la vie quand elle le peut. C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'en fait, elle doit se faire opérer des hanches. Mais elle annonce à la caméra que avant.
Donc
tout,
Kris Jenner,
la maman de Kim Kardashian, qui apprend en face caméra qu'en fait elle a des problèmes de hanche, qu'elle va devoir se faire opérer, que c'est un moment de vulnérabilité extrême, mais que c'est pas grave, elle va en profiter pour se refaire les seins. Finalement, c'est elle qui a gagné. Et tout le moment devient hilarant. Donc elle est absolument pas quelqu'un qui souffre du tout. C'était son choix. Elle a restauré une forme de agency par l'humour.
Vous avez cité le nom de Susan Sontag, Alice Pfeiffer. Alors justement, pour bien voir la théorie qui découle du camp, il faut remonter à Susan Sontag qui théorise le camp, en tout cas qui dit qu'elle ne veut pas le théoriser, mais qui tente en tout cas d'en esquisser quelques traits. C'est en 1964. On entend tout de suite la voix de Susan Sontag.
J'aime la provocation. Je peux dire que pour moi, l'intérêt, c'est d'aller toujours un peu contre-courant. Et je suis dans la situation maintenant que j'ai travaillé depuis un certain temps et que j'ai assisté à une situation, bon, à la situation où des idées, par exemple, que j'ai promulguées, que j'ai discutées, qui étaient des idées très minoritaires, très, très contestées, sont arrivées de devenir courant même. Je ne dis pas simplement à cause de moi, mais sûrement un peu à cause de moi. Alors, avec mon tempérament de contestataire, ces idées, forcément, m'intéressent plus. Pas parce que je ne suis plus d'accord avec moi-même, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours fournir un en plus. De dire toujours, et alors et, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. J'ai envie de continuer à découvrir. Et je découvre par rapport aux idées reçues. Et si mes propres idées deviennent les idées reçues, forcément, je dois m'installer ailleurs.
Suzanne Sontag, le 27 février 1976, dans l'émission Femmes d'aujourd'hui. Est-ce qu'on aura encore un titre d'émission comme ça aujourd'hui? Femmes d'aujourd'hui, diffusée sur Radio-Canada. Suzanne Sontag a raison d'affirmer qu'elle va à contre-courant et qu'elle a déterré ou qu'elle a trouvé des idées qui vont devenir après des idées courantes. C'est le cas du Kemp. Elle écrit quand même sur le sujet en 1964. Et dès le départ, alors elle écrit sous forme de notes, il y en a 58. Et dès le départ, elle dit théoriser le Kemp, ce serait le trahir. Mais néanmoins, il y a quand même une logique à cette sensibilité et elle tente d'en dégager les traits essentiels. Un des premiers, c'est elle nous dit « Le Kemp est un certain mode d'esthétisme, c'est une façon de voir le monde comme un phénomène esthétique. Dans ce sens, celui du Kemp, l'idéal ne sera pas la beauté, mais un certain degré d'artifice et de stylisation. »
Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle joue entre un jeu de symboles et un jeu de linguistique, finalement. Parce que ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il y a une association complètement arbitraire entre signifiant et signifié, que tu me dis pomme. Alors, pomme, c'est un objet, c'est aussi un imaginaire commun qu'on ne va pas nommer, mais dont on peut rire ensemble. Je peux te dire, ah, toi aussi tu veux croquer la pomme, mais tu sais très bien de quoi je parle. Ou je peux te dire, ah, jardin secret, serpent et pomme, buisson. On peut faire des blagues parce qu'il y a des imaginaires communs dont on se débarrasse dans un échange et qui sont en fait omniprésents. Et c'est toujours sur ce décalage et cet enrichissement et cette troisième lecture qui est présente, symbolique et parfois non dite, mais tout de même là, où, qui rajoute une lecture de la culture présente. Moi, je le vois parce que je fais un aller-retour étant franco-britannique. Il y a des choses qu'il faut hurler les Britanniques. C'est par exemple Glédène. C'est une application pour tromper sa femme, je crois. Mm-hmm. Il y a marqué sauras-tu croquer la pomme. Mais on voit que c'est un pays catholique qui a imaginé cette campagne quand même. Des comédies musicales qui s'appellent Adam et Ève, la seconde chance. Bon, dans un autre pays, c'est un geste d'art contemporain très drôle. Et c'est cette lisière entre beaucoup de cultures où on parle globish, mais en fait avec des normes qui sont des normes anglo-saxonnes, qui sont des normes plus puritaines. Le tout passé, repassé par finalement des poches locales judéo-chrétiennes, des croyances diverses. Donc dans la circulation de l'anglais, je pense qu'il y a un amusement avec comment les langues et les mots s'emportent.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là, chez Suzanne Sontag, elle insiste sur la dimension, elle parle effectivement du signifié, du signifiant et de ce troisième niveau qui serait un niveau en fait de l'ironie, qui serait au-delà de la symbolique, mais elle parle aussi, dans ce que j'ai lu, elle insiste sur la dimension artificielle. Ce qui compte dans le Kemp, c'est que tout ce qui est naturel doit être effacé, ce qui compte seulement c'est l'artefact, c'est l'objet, c'est le superficiel, et ça c'est une revendication en fait qu'on peut trouver assez couramment maintenant, c'est-à-dire le culte de l'artificiel, de l'apparence, des images. Pourquoi le Kemp est une manière de s'en ressaisir d'une certaine manière, en fait?
Parce que c'est poser la question de l'authentique et du faux, sachant que la nature, le bucolique sont elles-mêmes des inventions du 19e siècle, si je dis pas de bêtises, mais ce sont des fabriques comme une autre. Tout essence est naturel et effectivement une fabrique plus, aussi factice que le reste. Et aussi, ça a l'air de la surproduction. On n'a plus que ces outils-là pour s'exprimer. Donc moi, ce que je trouve très drôle, c'est quand effectivement, on peut faire de quelque chose de complètement grandiloquent, over the top, à paillettes, qui clignote, qui brille dans le noir, quelque chose de complètement sincère. Et c'est exactement ce que en fait j'explorais dans mon second livre, Le goût du moche, c'est qu'en fait c'est à partir d'objets en plastique troués comme des crocs, en fait c'est des émotions tout à fait sincères qui en découlent. C'est-à-dire que c'est quelque chose de mignon, d'attendrissant. On peut être homesick d'un objet en plastique finalement. Et donc c'est l'arrivée d'émotions tout à fait touchante, tout à fait sincère,
naïve
presque, cachée derrière quelque chose qui aurait voulu dire qu'il passait par sans strate de relecture pour finalement revenir à en fait tout ça là j'étais un peu triste. Bon, par exemple, il y a un mouvement qui m'amuse beaucoup, c'est donc après c'est le mouvement emo, nous sommes donc entre les années 2000 près le crash boursier, il y a un mouvement de New Romantics qui se fait appeler les emo. Ils veulent juste dire qu'ils ont envie de parler de leurs émotions. Mais ils le font avec des mèches plaquées sur le visage, du col, des chaussures pointues, des vestes en léopard. Tout ça pour dire « I'm feeling very emotional right now ». Et en fait, la boucle est bouclée, c'est exactement ce qu'ils voulaient dire.
Donc c'est revenir à une forme de en fait, passer par l'artifice pour revendiquer une sorte de simplicité des émotions.
Une simplicité absolue des émotions, cachée dans toute sa vulnérabilité, dans effectivement une cape à cheveux verts. Il y a aussi la chanteuse récemment Santa de -, qui joue un piano à queue sous une pluie de pop-corn, les couvertes de poils verts et de latex, qui dit « moi je veux juste un monde nouveau, il y aura du pop-corn salé ». Et oui, je pense que c'est exactement ce qu'elle veut.
Mais finalement, c'est aussi une manière de lutter contre cette alternative, cette opposition un petit peu acculée entre entre l'être et l'apparence, entre le vrai et le faux. C'est une manière de dire, en fait, on va revenir à quelque chose de très primaire, des émotions, de tristesse, de joie, à travers, en fait, un artifice. Mais c'est un petit peu aussi ce qu'on trouve depuis assez longtemps dans le rococo, par exemple, ou dans le roman gothique.
Dans le néoclassicisme. Moi, j'adore le gongorisme aussi. J'ai une citation.
C'est quoi le gongorisme?
Alors, c'est le plus merveilleux des poètes, si je vous retrouve ça. C'est Gongora, que je dis avec un accent américain pour être encore plus chic. Où est-ce qu'il est? J'ai perdu mes notes. Qui disait, donc c'est un poète espagnol complètement incroyable, qui veut juste dire qu'une fille se lave le visage et il dit qu'elle a réuni le cristal liquide au cristal de sa joue par le bel arc-duc de sa main. Bon, elle se lave.
Mais en fait, c'est en faire des tonnes. En fait, c'est plus que de l'artifice. En fait, il y a un truc d'excès dans le kemp. Ça veut dire on est toujours dans la prolifération et tout, mais sans se dire qu'on va cacher quelque chose.
Ah, ben c'est le rire et les larmes en même temps, mais basculer du côté sympathique de la chose. Et c'est. Et c'est aussi parler du goût comme une pratique normative comme une autre, parce qu'en fait, fonctionnel ne veut pas dire pratique. Par exemple, fonctionnel, c'est un champ esthétique, en fait. Et c'est-à-dire qu'on pense beaucoup, et on le voit beaucoup dans l'accessoire, dans la création d'accessoires, qu'il y aurait une dualité qui serait qu'une dualité homme-femme. Et en fait, la dualité et la tension dans tout geste esthétique se jouent toujours exactement entre la tension un peu palpitante, entre ornement et pragmatique. Ça, c'est ni l'un ni l'autre, jamais. C'est toujours un tiraillement. Pourquoi ce cadenas est-il carré? Quelqu'un s'est fait plaisir au passage. Il l'a déguisé en geste absolument sensé, mais absolument pas. Et c'est effectivement, et si je dois revenir à la sincérité, il y a quelque chose que dit Sontag que je trouve hyper beau. Elle décrit l'artisan qui fait un pied de lampe à nouveau, il se dit pas « moi artisan, je fais mon travail », ni « je suis un grand artiste », il dit « ah, voilà l'Orient ». C'est ce rêve-là, c'est quand on voit Sylvester Stallone qui joue Cliffhanger, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il grimpe sur une roche glacée avec ses mains nues en slip, et il explique que c'est parce qu'il est viril. Et c'est presque touchant, c'est presque, comment on peut dire, crypto-queer, c'est extrêmement drôle, il est tout musclé, et finalement on dirait un petit garçon qui joue à Tarzan, donc c'est très drôle.
Mais il y a une distinction que fait Susan Sontag entre le kemp naïf, c'est-à-dire qu'on va accomplir malgré soi, et le kemp conscient, c'est-à-dire on cherche à être kemp. Ça c'est plutôt ce qu'on a décrit au début, Alice Weifer, c'est-à-dire le moment où en fait soi-même, on va s'auto-commenter, on va dire c'était un grand moment de honte. Or, Susan Sontag, elle s'attache quand même plutôt, d'ailleurs son essai fourmi de plein d'exemples. Il y a le lac des cygnes, il y a Richard Strauss, il y a King Kong, il y a Greta Garbo, j'en passe, on va en écouter d'autres. Ces gens-là, en fait, ne voulaient pas être kemp. Ils l'ont été presque malgré eux.
Ah bah ça, c'est une bonne question. C'est à partir de quand est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Est-ce qu'ils, comme on dit en anglais, were there in on the joke? Est-ce qu'ils se rendaient compte de quel côté de la blague ils se situaient? Est-ce qu'on laugh at them ou laugh with them? Est-ce qu'on rit avec eux ou on rit d'eux? Et effectivement, c'est exactement pour cette frontière-là qu'il y a des personnes qui vont être adulées par les communautés gays. Je suis toujours très intéressée de voir quelle femme résonne chez un public homosexuel. Par exemple, pourquoi est-ce que ce soit Dalida, que ce soit Maléfique, que ce soit Sarah Bernhardt, mon idole, c'est que tout ce temps-là, on ne savait pas exactement si elle était surconsciente ou pas. Moi, j'adore donc Sarah Bernhardt qui a vu développer son propre merchandising, qui s'est rendu compte qu'elle était une star, donc elle avait des petites statuettes d'elle-même dans sa valise qu'elle vendait en coulisses, et qui lançait des rumeurs qu'elle était en fait, son bébé était en fait l'enfant de Victor Hugo, reine du marketing, en train de rire avec elle-même, on ne le sait pas exactement, et c'est ce mystère-là, regarder du bon côté de la chose qui rend la chose en fait, merveilleuse.
Donc, ce balancement-là entre l'artifice, entre la conscience, en fait, il n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que être kemp, en fait, on en parle comme d'une culture, comme quelque chose d'une tendance actuelle, même un mouvement historique, hein, parce que Susan Sontag, elle parle quand même de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, au moment où il y a l'apparition de la peinture maniériste, du Caravage. Après, elle parle des romans gothiques, de la caricature, des ruines artificielles, des chinoiseries, du rococo. Après, elle parle, vous l'avez cité, Alice Weifer, de l'art nouveau. Mais cette question, en fait, de l'artifice et de l'intention d'être artificielle, elle n'est pas véritablement tranchée dans cette culture. On ne décide pas véritablement de l'être. Là, on peut faire du RuPaul, on peut lancer des drag races, mais est-ce que c'est pas en fait, d'une certaine manière, une corruption de cette sensibilité duquel ?
Ça le serait si c'était une corruption par un public et un lectorat hétéronormé. Mais à partir du moment où kemp, c'est la personne minorée qui, finalement, te salue et t'ouvre dans sa communauté parce que tu l'auras pris en pleine main, tu en auras fait quelque chose de fort, et c'est à partir de ce moment-là où c'est célébré, applaudi par des publics. Donc, vu que ça vient bien de sphères qui ont eu besoin, en forme de bouclier, en forme de résistance, c'est célébré comme mode de force. Donc ça vient de personnes, il y a un regard bienveillant. La personne qui tranche te dit welcome home.
Ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore évoquée, effectivement, Alice Pfeiffer, c'est que Suzanne Sontag, dans son livre, insiste sur la presque identité entre le camp et la communauté homosexuelle.
Oui, absolument.
Et effectivement, aujourd'hui, là, on a parlé, on a identifié presque drag et camp en les différenciant quand même. Oui. Mais effectivement, vous avez parlé tout de suite de la communauté LGBT. Donc, il y a une forte collusion entre tous ces mouvements.
Ouais, moi je pense absolument. Je pense que c'est des endroits qui sont des safe spaces pour essayer des nouvelles identités, qui miment et rient de codes hétéronormés pour finalement les déjouer. Moi, je suis toujours intéressée par l'émergence des mouvements dits femmes, qui vont, il y a donc de féminité a priori hétéronormée dans les milieux lesbiens, qui sont en fait une façon de déjouer des codes et des attentes par une presque virilité à l'intérieur de ces codes. Je sais que Lara Croft est un exemple qui plaît énormément, par exemple.
Parce qu'on va dénoncer la virilité en étant surviril.
En étant surviril par des codes qui ne le sont précisément pas. C'est-à-dire que Lara Croft, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle elle court en soutien-gorge et dort la tête en bas, et elle a tout d'une Barbie, et pourtant produit le contraire, et produit l'effet inverse, parce qu'elle n'est pas dans une parade de pudeur, de séduction classique, d'assujettissement. Non, elle met du gloss et elle tranche des gorges. Donc, c'est comme Megan Fox dans Jennifer's Body, qui est donc une vampire jouée par Megan Fox, qui est une poupée Barbie qui séduit des hommes pour manger leurs intestins, et après se recoiffe. Ça, c'est des féminités dites femmes, et elle parle justement de la virilité de Marlène Dietrich ou Greta Garbo. Elle, c'est donc Suzanne Sontag. À l'intérieur de ça, elle fait ce délicieux jeu de virilité chez les femmes. Et je pense que c'est un sentiment d'étrangeté transformé par le regard bienveillant de la communauté en théâtre quotidien.
On va écouter un ensemble de personnalités qui sont dites camp, et certaines vont vous étonner.
My mind is so far away when I dance. I live in another age. Centuries back, when man and woman... Good night, General Schubert.
J'ai des cheveux blancs, d'accord, je porte une chemise, une cravate, une veste noire. Bon, qu'est-ce que ça... Tout le monde est habillé comme ça, plus ou moins. Ce que je fais, ce que je suis, ce que j'apparais, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. C'est pas un acte que je me dis, tiens, on va faire ça. Non, c'est le comble du naturel. Mais l'idée du naturel n'est pas forcément la même pour tout le monde.
It was so good, so good.
Allons, the claw.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Au-delà de l'illustration du chapeau à trouver dans les feuillages de l'arbre, c'est de la feuillure de la page qu'il matérialise bel et bien une condensation typographique, celle qui, des plis du drapeau, fait lire « rêve d'or », les mots qui s'y disloquent pour ce qui soit porté à plat « révolution d'octobre ».
Some people have everything, they have nothing.
Oh yeah, I'm sure.
Thank you so much.
France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Alice Pfeiffer, est-ce que vous avez reconnu tout le monde ?
Alors oui, je connais mal le travail de Jacques Lacan, mais il y a quand même quelque chose qui m'amuse chez ce personnage, c'est que le peu que j'ai vu, il annonçait des choses qui a l'air plutôt maligne, le tout avec un col lavalière en soie et un cigario. Et ce qui est très drôle, c'est que ça aurait été calme s'il avait dit « Voilà, ça c'est moi qui veux faire un télo. Regarde, comme je suis intelligent, je te le montre par des petits pois.
» Mais il se prend trop au sérieux.
Mais le problème, c'est qu'il le dit pas. À partir du moment où tu dis « J'ai mis ma panoplie pour faire sérieux, mais un peu foufou, regarde-le, ma chemise te l'indique », là, ça devient drôle. Et là, il serait devenu Oscar Wilde.
Mais pourtant, le général de Gaulle que cite Suzanne Sontag et qu'on a entendu, aussi Greta Garbo, oui. Karl Lagerfeld, Céline Dion. Alors, je pense que Karl Lagerfeld et Céline Dion peuvent se revendiquer Kemp, mais par exemple le général de Gaulle, non. Et pourtant, Suzanne Sontag le voit comme quelqu'un de Kemp parce que elle le dit bien hein, dans ses notes sur le Kemp. Elle dit on fait plus attention à la manière dont il dit des choses, en fait, à son style, plutôt qu'au contenu de ses paroles. Et ça, c'est un grand élément dans le Kemp. C'est vraiment, oui. On s'en fiche du contenu. Ce qui compte, c'est vraiment la manière dont on le dit.
Ou le décalage ultime entre les deux. Mais alors, le problème de Gaulle, c'est comme le problème de Berlusconi qui, avec toutes les horreurs qui sortaient, fait tout ce temps-là, il le faisait avec du fond de teint orange, les sourcils décolorés.
Ou Trump avec ses cheveux, par exemple.
Trump avec ses cheveux. Le problème, c'est que leurs actions produisent le contraire. Donc, c'est pas du tout le début d'un, ou l'aboutissement d'un processus de construction plus large sur les normes et les idéaux. Ils sont divertissants pour faire passer autre chose. Donc, c'est plus complexe. Après, je pense que c'est une façon de lui tirer gentiment dans les pattes. Mais après, Kemp, un exercice qu'on peut faire, qui est se dire qui sont les personnes Kemp qui ne sont même pas rendues compte. Moi, j'ai une grand-mère qui l'était tout le temps. J'adore parler de ma grand-mère d'ailleurs. Quand on lui disait « Oh, tu es belle », elle disait « Ouais ». Et on lui disait, elle se promenait, elle se plaignait toujours. Elle me disait à chaque fois qu'on l'embêtait, elle me disait « Tu as encore un qui m'a pris pour Elizabeth Taylor, c'est pesant au long ». Et je pense qu'elle le croyait un tout petit peu.
Donc elle était calme sans le savoir.
Je crois que c'était, encore une fois, c'était sa elle savait pas trop. On savait pas trop. Mon père, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon père, qui avait donc 35 ans de moins qu'elle, lui dit, oh, vous avez moins de rides que moi. Elle dit, oh, mais j'espère bien. Et c'est pas grave parce que c'est sa propre princesse, évidemment. Et c'est comme ça qu'elle s'est, alors qu'elle a pas une vie facile, vraiment pas, mais elle s'en est toujours sortie en étant à la lisière des deux. J'ai décidé que j'étais une princesse Disney et je vais vivre toute ma vie comme ça.
Donc tout est une question en fait de décision, mais on en revient à la problématique que je soulevais tout à l'heure, Alice Pfeiffer, c'est finalement, il y a toujours ce problème entre le Kemp naïf, inconscient et le Kemp conscient, c'est-à-dire que ça devient, est-ce que le Kemp devient une culture à partir du moment où tout le monde peut le revendiquer ou le faire de manière intériorisée.
Je pense que c'est toujours un moment de fragilité et un moment où on se jette dans le vide et c'est exactement parce que c'est le moment où on est rattrapé en plein vol que ça devient Kemp. C'est-à-dire que c'était un moment où on se mettait presque à nu, mais ça a été accueilli avec tellement de bienveillance que tout d'un coup, dans la réception, ça devient un moment de transcendance à ce moment-là. Je pense par exemple à la mode britannique qui est extrêmement bienveillante. C'est une blague qu'on peut faire entre critiques de mode, c'est-à-dire qu'il y a souvent, tu vas être un défilé de mode et on va te dire « décris-moi ton style en un mot, tu sais pas quoi dire » ou un journaliste va poser cette question et tu peux dire absolument n'importe quoi, tu peux dire « mon style ?» Oh, parfois. Oh, mon style, succursale. Et il y a toujours quelqu'un pour te dire « that's a concept, I love it, how did you come up with this ?» Et il y a ce rapport dans la mode où il y a un jeu d'absurde et de surréalisme à tout instant, où vraiment ça va être des créateurs en larmes qui vont te parler de leur collection qui s'appelle Björk, qui serait la sœur imaginaire de Björk avec un P qui ferait du yodel dans les montagnes suisses, en larmes. Et c'est à ce moment-là où tu lui dis « hyper cool ». Et c'est dans ce basculement-là que la mode et l'avant-garde reprend des choses qui sont des terrains d'essai, en fait, et des moments d'inconscient qui basculent dans un geste esthétique validé par la place de l'avant-garde, qui est elle-même une expression queer.
Mais est-ce que ça peut avoir lieu en dehors, en fait, de domaines où l'image est prédominante ? Donc, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des séries, on a parlé des performances, on parle de la mode, mais finalement, au travail, dans la vie courante, est-ce qu'on peut adopter une attitude Kemp ? Parce que Suzanne Sontag, c'est d'abord une question de style, d'attitude. Est-ce qu'on peut être Kemp en dehors du regard des autres, par rapport à soi-même, ou alors dans des institutions qui ne jouent pas sur l'image ?
C'est une bonne question. À quel point est-ce qu'ils sont capables, eux, montrer la bienveillance qu'on montre en étant soi-même autocritique? It's a gamble. C'est absolument jamais figé. Mais je pense qu'on peut être Kemp de toute façon au quotidien. Est-ce que s'il faut prendre le bain avec des lunettes de soleil? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Est-ce qu'il faut mettre des chaussons à 9 euros fluo avant d'aller dormir? Effectivement, ça suppose un public ou un troisième regard, ou au moins l'intériorisation d'un public ou d'une réception bienveillante, même si ce n'est que dans sa tête. De se dire, quelque part, quelqu'un rira à la blague.
Là, on parle beaucoup de personnalités, de figures, d'individus qui pourraient être Kemp, mais Suzanne Sontag insiste quand même sur le fait que le Kemp, c'est d'abord une culture qui passe par un certain attachement aux objets. Donc, c'est des objets qui vont être Kemp, c'est de la décoration notamment, c'est certains films, c'est certaines musiques, c'est pas forcément, en fait, une attitude de vie, en fait. C'est d'abord un certain art. Est-ce que cet art-là, maintenant, il est devenu dominant, d'une certaine manière ? Est-ce que c'est ce type d'art-là qui prédomine dans toutes les productions artistiques et culturelles actuelles, Eastwafer ?
Alors, le problème, le camp, c'est à partir du moment où on le fige dans une ligne et dans un mode de production, ça ne l'est par définition plus. À partir du moment où ça rejoint un système capitaliste, c'est juste une nouvelle tendance. Il y a eu plein de mouvements de kitsch. Le kitsch revient régulièrement à la mode. À partir du moment où c'est produit en grande distribution, où c'est produit par du luxe.
À partir du moment où ça plaît, en fait.
À partir du moment où ça plaît et ça devient un objet tangible avec une rentabilité derrière, je pense que l'essence s'essouffle. Et la différence qu'on peut voir pour moi qui est hyper intéressante, c'est que là où ça passe d'un objet à un corps, c'est qu'on est en plein air de pinkwashing. C'est-à-dire qu'il y a littéralement des lignes de t-shirts avec des arcs-en-ciel, avec des couleurs et je ne pense pas que ce soit des vêtements camp. Je ne pense pas non plus que ce soit des vêtements queer ou étranges. Ils n'ont plus rien d'étrange et d'ailleurs ils sont fabriqués par des Ouïghours. Donc c'est vraiment pas. C'est un terrible serpent qui se mord la queue. Mais ce qu'on oublie fondamentalement, c'est que le vêtement, et un vêtement qui serait queer, qui serait camp, ça envoie un double signal. C'est un vêtement qui protège le corps, qui raconte une histoire, mais qu'en même temps, une double lecture qui peut être détectable par les personnes concernées, qui peut être détectée par sa communauté. Je viens de donner un petit coup dans le micro. Et donc, c'est distinguer le camp. Le camp, par exemple, camp n'est pas contenu dans une ligne de vêtements sortie pour la Pride, du tout. En fait, ça n'a rien à voir. C'est un processus normatif comme un autre. On peut être tout à fait normé et se dire gay. Donc c'est pas réservé aux élites. C'est pas contenu dans un objet. C'est pas contenu dans des codes visuels ou dans un arc-en-ciel ou quoi que ce soit ou des plumes. Si c'est fait de façon affreuse et déraciné de toute une responsabilité ou d'une bienveillance plus globale, je pense que ça l'est plus du tout. C'est un énième geste marketing.
On a, mais vous posez précisément la question, Alice Weifer, en fait, de comment naît le camp et on en revient à comment on décide de l'être, mais surtout, en fait, est-ce qu'on peut, par exemple, décider qu'il y a une culture camp sans la dévoyer ? Elle le dit bien, Suzanne Sontag, elle dit que c'est une forme d'aristocratie qui naît, en fait, de manière presque inconsciente. Si tout le monde est camp, si on a du camp partout, en fait, il n'y a plus du tout d'aristocratie du camp.
Alors, moi, ce que je pense que elle parle de snobisme inversé. Moi, je pense que c'est une forme de, elle parle de snobisme du goût. C'est un contre-snobisme. Bourdieu disait, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Et peut-être que c'est, en deux temps, c'est l'attendrissement du dégoût du goût des autres et finalement la dénonciation de la première, de l'oppresseur, pour commencer, de la personne, du bourgeois, de l'élément normatif qui a emmené un processus dégoût même. Donc c'est une façon de retourner le retournement, quelque part.
C'est de dire ce que tu trouvais de mauvais goût.
En fait, tu as complètement tort. C'est absolument somptueux. C'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus drôle. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Demna Gvasalia au fil de sa carrière, qui est à la tête de Balenciaga, qui voulait juste s'amuser, qui a dit je peux rendre n'importe quoi cool. Et littéralement, il a mis des joggings, des crocs, du faux fan art de Johnny Hallyday sur les catwalks, rachetés par les mêmes bourgeoises qui méprisaient précisément ces objets quelques saisons avant. Et ça, c'est un geste camp, pour le coup. Il a rigolé des filles, des a priori qu'elles n'avaient même pas vu qu'elles avaient dépassé une fois que c'était adoubé culturellement. Et donc, Demna est quand même... il fait des blagues extrêmement méta pour tout. Et il dit que son rêve à lui, c'est précisément l'hyperréalisme. Et il dit qu'il lance une marque de mode extrêmement pointue, extrêmement snob, qu'il appelle tout simplement vêtements. Vêtements qui est donc introuvable sur Google.
C'est à lui qu'on doit d'ailleurs la reprise de vêtements DHL, par exemple, c'est ça ?
Oui, alors bon, après, ça pose beaucoup d'autres problèmes.
Voilà.
Parce que c'est une autre appropriation culturelle. Mais dans l'idée, dans le geste, c'était drôle pour la cliente, moins drôle pour la clientèle citée.
On va écouter tout de suite une des grandes références du texte de Suzanne Sontag. Enfin, on va écouter une interprétation de Oscar Wilde.
Harris, Oscar, comment allez-vous, cher Oscar ?
Mais très bien, vous savez. Les prisons de Sa Majesté sont très habitables. Elles ont même été construites pour cela.
Vous écrivez ?
Au début, on ne me le permettait pas, mais maintenant j'ai le droit après le travail. La prison n'est pas sans avantage, vous savez. Cela évite de se disperser. Et puis... je ne crois pas que ce soit tout à fait inutile. Voyez-vous, mon cher, je possédais du génie, un nom illustre, une haute situation sociale, de la gloire, de l'éclat et l'audace de la pensée. J'ai fait de l'art une philosophie et de la philosophie un art. J'ai enseigné aux hommes une manière de penser différente et donné aux choses d'autres couleurs. Tout ce que je disais, et faisait plonger le monde dans l'étonnement.
C'est vrai, Oscar. Vous l'avez dit souvent, vous traitiez l'art comme la réalité suprême, la vie comme une branche de la fiction.
Oui, c'est sans doute pour cela que j'ai éveillé la fantaisie de mon siècle. Mais aujourd'hui, il se venge.
C'est l'heure.
Au revoir, Oscar.
Au revoir, Harris. Je retourne à mes nouvelles leçons.
Ça, c'est pour le dandy Kemp du 19e siècle. Oscar Wilde, interprété par Jean-Pierre Marielle, c'est en 1970. Mais maintenant, on va écouter une nouvelle forme de dandysme. Dandysme aussi Kemp. Vous en avez un tout petit peu parlé déjà, Alice Pfeiffer, c'est Kim Kardashian.
Ma boucle d'oreille est tombée.
Oh my god, I'm gonna cry, my diamond earring.
Sérieusement?
It's not funny.
Are you serious?
C'est $75,000.
We're not gonna find it in the ocean.
On la trouvera pas dans l'océan.
Kim Kardashian qui a perdu sa boucle d'oreille dans l'eau. Incroyable doublage, je dois dire, de Anaïs Isbert et Nicolas Berger. C'est vous qui nous avez indiqué cet extrait, Alice Pfeiffer. Est-ce que c'est deux formes, alors, de figure Kem, mais surtout, en fait, une manière d'évoquer la dimension dandy du Kemp?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle vit des émotions très sincères avec des choses ridicules. Enfin,
c'est vrai que ça a l'air d'être une tragédie quand même d'avoir perdu sa boucle d'oreille.
À $75,000 en diamant dans l'océan, oui. Et après ça, ce qu'on n'entend pas, c'est que Courtney, sa sœur, qui dit « Aujourd'hui, je me suis fait un look rock, mais je ne sais pas ce que j'ai... » qui veut donc lui apporter des t-shirts de Kyo, va dire « Ah, j'ai jamais écouté !» Et elle, ça quimperie à elle. Elle dit « Je fais semblant d'être allée à un concert. » Va lui dire « Mais enfin, Kim, réveille-toi, il y a des gens qui meurent sur la planète. » Moi, ce que j'aime bien avec le dandy, contrairement à Kim Kardashian, c'est qu'il y a un élément du quotidien qui est hyper chouette. C'est-à-dire que Suzanne Sontag cite Oscar Wilde qui dit un bouton de porte, un bouton de chemise, un col lavalière, tout a le potentiel de rendre le quotidien un peu quimpe. C'est vraiment c'est le dépassement, le tout petit plaisir, parfois un peu ridicule, parfois un peu frivole, parfois un peu merveilleux que ce qu'on s'est autorisé. C'est le choix d'assortir son vernis à ongles, son rouge à lèvres et son ombre à paupières parce que ça nous fait plaisir à nous. Et je pense qu'on peut insérer le calme dans les gestes les plus quotidiens et ça peut être une pratique absolument démocratique. C'est pas littéralement des choses somptueuses et chères.
Oui, d'ailleurs, Suzanne Sontag dit « Le dandy d'autrefois haïssait la vulgarité ». Elle ne parle pas d'Oscar Wilde, justement, parce que lui, il était capable d'aimer une poignée de porte. Et elle ajoute « Le dandy moderne, passionné de Kemp, apprécie la vulgarité. Tout ce que le dandy aurait jugé ennuyeux à mourir et insupportable, le connaisseur du Kemp en tire amusement et plaisir. Le dandy portant à ses narines un mouchoir parfumé faisant mine de s'évanouir, le connaisseur du Kemp se fait fort de pouvoir impunément respirer la puanteur. » Et il y a une dimension sur laquelle il faut insister, Alice Pfeiffer, c'est le fait que le Kemp actuel, le dandy Kemp moderne, aime ce que les autres n'aiment pas.
Je pense que c'est le snobisme intégral, c'est que tu le vois. Vraiment, c'est à la fois par le futur, par le prisme d'une caméra, pour l'autre, et tout est appréhendé comme ça. Loïc Prigent a des phrases magnifiques où il dira.
Donc Loïc Prigent,
qui est un journaliste de mode, qui est extrêmement drôle, qui tweet des phrases dans la mode, mais ce que tous les gens dans la mode font, parce que on entend des choses quand même un peu ahurissantes.
Des perles.
D'une diva qu'il a rencontrée, qui refusait de manger du risotto parce que c'est pas Instagrammable. Et sa vie entière était comme ça. Elle a dit les asperges beaucoup mieux. Et qui disait, oh, je crois que je sens. J'ai les aisselles qui sont bizarres, je crois que je transpire le champagne. Donc c'est joué sur, encore une fois, est-ce qu'il y a la lisière du ridicule ou du dégueulasse, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une façon, c'est un nouveau romantisme qui te permet de dire j'ai envie d'océan et d'hamburger. Je rêve de choses simples, d'une rivière de diamants et d'une série télé. C'est une autre phrase de Loïc Prigent. Tu dis pas bordélique, tu dis pêle-mêle surprenant, tu dis pas vulgaire, tu dis élégance disruptive. Donc c'est
une manière de réhabiliter tout ce que tout le monde va disqualifier habituellement. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il suffit en fait d'un simple renversement, de dire simplement le mauvais goût, c'est du bon goût? Est-ce que c'est pas plus subtil que ça en fait? C'est plutôt de dire le mauvais goût, c'est du mauvais goût, mais sur moi, ça va être quelque chose de magnifique. Et de toute façon, le mauvais n'est qu'une norme en fait qui a été établie et qu'il s'agit de déconstruire.
Bah, c'est une façon de réintégrer la critique anticipée pour finalement dénoncer le critiqueur. C'est pas tant du bon et du mauvais, c'est se dire je détecte le système qui, si j'avais pas une longueur d'avance, m'aurait sûrement pressé, mais c'est un pied de nez qui est l'histoire de Galliano, qui est l'histoire d'Alexander McQueen, à tout ce qu'on ne réalisait même pas qu'on était en train de projeter et d'attendre, et comment on l'a déjà déjoué avec une longueur d'avance.
Donc cet esprit-là, on va dire, entre l'aristocratie et la démocratie, c'est-à-dire de faire en fait le snob avec un goût qui est partagé par la masse, ça on peut dire que c'est une dimension presque politique et anti-normative du camp. Parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus, Alice Pfeiffer, oui, sur la dimension justement de voilà, on va déconstruire des choses, on va pouvoir en fait s'exprimer en toute bienveillance et désamorcer une critique qui pourra nous être faite. Mais là, il y a carrément une dimension très politique du camp, alors que Susan Sontag, pardon, déclarait que le camp n'avait rien de politique. Alors maintenant, c'est plus le cas.
Ah si, je pense que c'est absolument politique, parce que surtout à l'heure actuelle où c'est un camp qu'il faut pas, comme on le disait il y a quelques instants, mélanger avec une forme ni d'appropriation ni de mépris de classe. Donc il faut aller encore fouiller dans des sphères et des références qui ne font de mal à personne et ne pirent rien en passage. Donc c'est un camp qui doit se conscientiser au fil des années. Et je pense que d'ailleurs elle en parle dans la conclusion du texte où elle dit qu'il y a une dimension que je retrouve. J'ai 150 morceaux de papier autour de moi. Où elle parle exactement de ça, de la notion, est-ce qu'on y est ? Une nouvelle attitude devant le plaisir.
Oui, exactement, je vois très bien.
Et remobiliser...
Le goût camp valorise chaque objet de son plaisir. Ceux qui sont pourvus de cette forme de sensibilité ne cherchent pas à se moquer de l'objet qu'ils nomment camp. Ils en jouissent. Le camp, c'est de la sensiblerie. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce qu'elle dit avant. Le goût camp parvient à apprécier, à trouver un goût de réussite à des tentatives passionnées qui ont abouti à l'échec.
Ouais, que c'est toujours des échecs qu'on a réhabilités. Et d'ailleurs, voilà, qui dit que, pour que je vous cite, sa place comme instrument, donc le goût comme instrument de sensibilité et d'éducation de la conscience. Et c'est un processus qui se doit se déconstruire en permanence. C'est-à-dire que camp, à une époque, c'était pas exactement la même chose quand on n'a plus accès aux mêmes choses au même moment dans les mêmes pays. Et de se dire, ça aurait été drôle. Ça, par exemple, le cas du bleu de travail, c'est un cas super intéressant. C'était punk, camp, c'était subversif quand Coco Chanel le faisait. À partir du moment où il y a toute une industrie qui n'a même pas embauché les personnes dont elle s'est inspirée, là, c'est devenu autre chose. Et donc, la circulation, par exemple, du vêtement ouvrier, c'est quelque chose qui aurait pu être réjouissant, qui aurait pu être un geste politique à une époque, qui a arrêté de l'être. Tout simplement parce qu'il y a un fossé s'est creusé et que la personne qui le porte n'a même pas rencontré le consommateur, le premier consommateur cité. Donc je pense qu'il y a un regard critique à prendre toujours dans ses références et s'assurer de, est-ce qu'il y a une forme de peut-être de traçabilité ou de traçabilité éthique ou de traçabilité dans la citation pour voir de qui, est-ce que c'est du foutage de gueule parce qu'on peut ou est-ce que c'est une forme de solidarité?
Donc vous parlez là en fait presque de camp washing, c'est-à-dire de la même manière qu'on parle de green washing ou de queer washing, ah oui, il y aurait une sorte de camp washing.
À partir du moment où c'est de la haute couture, je pense qu'il faut en faire très attention, parce qu'on parle de queer baiting aussi, donc c'est reprendre des codes queer alors qu'on n'est pas concerné et qu'on n'a pas vécu d'oppression queer. Donc c'est un homme cishet, comme on dit, cisgenre hétéronormé qui s'amuse avec, comme les critiques ont pu être émises de Harry Styles ou autres, c'est parfois réjouissant, parfois dangereux. Mais c'est pas quelqu'un qui connaît les réalités.
Alors, Harry Styles, juste pour.
C'est un chanteur qui est accusé souvent de queerbaiting parce qu'il reprend des codifications venant du milieu queer, sachant qu'il n'en fait pas les frais et que c'est pas du tout ni son quotidien, ni son adolescence.
Donc, il profite, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'appropriation. C'est-à-dire qu'en fait, il va profiter, en fait, de l'esthétique d'une communauté qui va pouvoir la toucher, la séduire, sans en vivre, en fait, le quotidien.
Et sans en comprendre l'importance de l'intérieur. À quel moment cet outil a été essentiel, ou a été un passage, ou a été un moment de fierté, ou a été un saut dans le vide, et un, comme on dit, donc le coming out, on dit parfois que c'est un moment, le moment welcome to the family. Ce passage-là, il l'a jamais connu. C'est pas une personne qui a fait de coming out, c'est pas une personne qui a une vie ou une existence où il s'est fait harceler pour. Donc c'est toujours un peu léger, et je pense que Kemp a peut-être une forme de responsabilité quand elle est reprise par le consommateur dominant.
Donc ça, c'est intéressant parce qu'on parle depuis tout à l'heure du Kem comme vraiment une attitude artificielle fabriquée, mais il faut quand même de l'authentiquement faux, vous l'avez dit aussi. Oui. Quand même, ça veut dire que ça doit quand même reposer sur une forme de réalité. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus jouer... moi, je, par exemple, je ne peux pas raconter que j'ai vécu un moment de honte s'il n'a pas existé. Ça va remettre en cause, finalement, presque la fiabilité du récit de cette troisième personne dont vous parliez.
Oui, je pense que c'est peut-être une façon de déconstruire et de se pousser et s'entraîner, se déconstruire en permanence avec comme à pas vers soi, quelque chose d'encore plus merveilleux, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on peut pousser qu'on n'aurait pas dit, qu'est-ce que quelle forme, on y revient, mais quelle forme de vulnérabilité on peut faire passer par cette, finalement, cette prise de risque. Et c'est toujours une tentative le jour où on le fait depuis un endroit de sécurité absolue, est-ce qu'on continue à l'être. Quelle actrice de cinéma, on lui disait alors, vous n'allez pas faire de Botox, elle fait j'ai travaillé toute ma vie pour avoir mes rides. Et qu'on était très fiers. Et finalement, c'est ces moments-là où le Kemp, c'est un processus qui accompagne toute une vie.
Je vous propose d'écouter un dernier extrait, Alice Weifer, un extrait que vous nous avez aussi conseillé. Cette fois-ci, il s'agit d'un film.
Oh, boxeur, c'est sans sas, regarde. Harvard, c'est top, non? C'est notre nouvelle maison pour les trois prochaines années. Tu meurs de soif, ma pupu.
Hé, brave, regarde la Barbie de Malibu.
Et voilà.
Ok, d'abord, bienvenue à tous.
Merci.
On va commencer par faire un petit tour rapide au cours duquel chacun va se présenter en quelques mots.
Je m'appelle David Kinney. J'ai une maîtrise de russe et de littérature, un doctorat en biochimie moléculaire et les 18 derniers mois, je les ai passés à déverminer les orphelins en Somalie.
Waouh, super. Et toi ?
Salut à tous, je m'appelle Enid Wexler, diplômée de troisième cycle à Berkeley sur les femmes et l'histoire de leur combat. Et l'an dernier, j'ai organisé toute seule ce qui a été la grande marche des lesbiennes contre l'ivresse au volant.
Géant.
Merci, on s'est bien amusés.
D'accord. Hello, je m'appelle Elle Woods et lui c'est Boxer Woods. Lui et moi, on est gémeaux, végétariens. J'ai une licence en mode et merchandising de CULA. J'ai été élue fille de l'année par les Delta Lambda Nu, présidente de l'amicale étudiante Delta Nu, et j'ai fait le discours de la promo l'an dernier. Oh, et il y a 8 jours, j'ai vu Cameron Diaz faire des achats et je l'ai dissuadé de prendre un pull atroce en angora orange. Celui qui a dit que l'orange était super tendance est quelqu'un de perturbé.
La revanche d'une blonde, film de Robert Luchty qui date de 2001. On entend donc Elle Woods qui entre dans une grande université et qui, elle, n'a pas du tout peur en fait d'assumer ce qu'elle est. Donc elle est complètement Kemp. Elle assume, elle prend très au sérieux sa frivolité.
Ah mais c'est-à-dire qu'elle fait sa vidéo pour rentrer à Harvard, le tout dans sa piscine sur un matelas gonflable avec un mojito qu'elle sirote et faisait des coucous à la caméra en disant qu'elle aussi, elle dénonce les cheveux mal lissés et que c'est pour ça qu'elle devenir avocate. Et ça marche. Et tout le film est comme ça. Et à la fin, effectivement, elle fait tomber le criminel en découvrant que sa femme avait menti sur sa teinture pour cheveux et qu'elle ne pouvait donc pas être dans la douche. Et donc, elle a vu le crime. Et elle avait raison. C'est effectivement, la femme avait donc assisté au meurtre et ça devient une excellente avocate. Donc, effectivement, le film est très Kemp et c'est la revanche d'une blonde qui, quand elle pleure, elle dit « Vite, vite, c'est l'heure d'une manucure pour moi et le chien ».
Donc on parle là vraiment d'une institutionnalisation du Kemp, d'une culture du Kemp, on en a beaucoup parlé à Alice Weifer, mais là, ce qui est intéressant dans le texte aussi de Susan Sontag, c'est qu'elle insiste sur le fait que après la grande culture qu'on a eue, qui est fondée sur des belles émotions, après la culture aussi beaucoup du XXe siècle, les productions artistiques qui est fondée plutôt sur la remise en question de soi-même, l'angoisse, elle cite Artaud par exemple, elle cite Genet, elle dit là, la troisième voie, c'est le Kemp, cette fois-ci il s'agit, et je l'ai lu tout à l'heure, il s'agit d'aimer échouer ou de voir en fait dans l'échec quelque chose non pas où on va se répandre en tragédie ou en comédie, mais au contraire on va adopter la voie de l'ironie, ce qui est légèrement décalé.
Ce qui est effectivement, c'est après la perte de rêve, d'intention ou de relecture du passé, parce qu'on sort quand même d'une époque extrêmement vintage, extrêmement twee, et que le futur n'est pas glorieux, l'ironie, c'est créer un espace à l'extérieur du futur, à l'extérieur de l'après très littéral. Je pense à la notion qui est présente en Cultural Studies, et que Mark Fisher, qui cite Derrida, sur qui j'ai sûrement vu un TikTok, parle de hauntology, qui est donc un mot valise entre hanté et ontologie, et qui parle de la hantise des idéologies, à la fois des idéologies écroulées, qui pourraient être aujourd'hui le patriarcat auquel on a beaucoup trop cru malheureusement, et la perte simultanée d'un futur. C'est-à-dire qu'à l'absence d'un passé qui vient hanter absolument chaque impression et représentation médiatique, il suffit de voir les pubs d'il y a 10 ans qui sont terrifiantes, et des solutions concrètes pour le futur. Et au milieu, juste un outil capitaliste qui propose de nous sauver. C'est comme Zizek qui dit que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Donc quand il ne reste plus que ça, est-ce qu'il n'y a pas une façon de pas parler d'au-delà, mais outre-là, mais en tout cas de défaire ces fantômes-là et cette absence des fantômes de demain et des fantômes de hier, en jouant justement avec un pas de côté, une forme de second degré, au moins pour soi, au moins une bonne blague pour soi.
Donc depuis le début, Alice Weifer, si on doit définir cette culture qui est omniprésente, la culture du camp, qui a une histoire assez longue, quand même depuis, on va dire, le 18e siècle, jusqu'à aujourd'hui, on doit toujours miser sur cette idée de troisième voie. C'est-à-dire, c'est une troisième forme de temporalité, c'est un troisième sens, c'est de l'ironie, c'est parler de soi, vivre au présent tout en se regardant à la troisième personne. Oui. Donc il y a toujours en fait cette dimension, on va dire, ternaire en fait du camp. Ça ajoute une dimension en plus.
Ah ben, le troisième espace, c'est quelque chose qui est... J'adore la traductologie. Et effectivement, il y a des débats en traductologie où on se dit, pour me faire comprendre, est-ce que je dois mimer l'autre ou est-ce que je dois m'auto-singer ? En fait, c'est donc est-ce que je me folklorise ou est-ce que je suis dans un mimétisme ? Donc est-ce que sortir de cette dichotomie entre mime ou autre vers un troisième espace est-ce que c'est après l'hybride, est-ce que c'est un mime plus astucieux,
est-ce que c'est pas de la synthèse non plus, parce que la synthèse ce serait un...
Qu'est-ce qu'il y a après? Oui.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer après la synthèse alors?
Ouais, c'est juste allumer la télé et se faire plaisir mais oui, tout ça pour finalement juste regarder la Star Academy. C'est vrai que ça pose la question d'un troisième lieu, d'un troisième regard, d'un troisième gaze en tout cas, et d'un troisième miroir, je pense.
Mais est-ce que ça donne pas un petit peu le vertige, tout ça? Parce qu'il y a un autre texte de Susan Sontag qui est souvent publié à la suite des notes sur le camp. Ça s'appelle « Culture et sensibilité d'aujourd'hui ». Là, c'est assez clair. Elle parle en fait de cette opposition qu'on fait entre la culture scientifique et la culture artistique tout le temps. Oui. Elle dit maintenant, ça n'a plus lieu d'être, parce que ce qui compte en fait, c'est le plaisir... Que va prendre par exemple un grand musicien à écouter de la musique populaire, ou alors un musicien de musique populaire à regarder un grand spectacle. Donc tout ça finalement, en fait, est-ce que ça donne pas le vertige? C'est un moment en fait de fusion où tout se relie, mais en même temps on ne cherche qu'à se protéger à travers des safe places, des contre-discours, voilà, il y a une sorte de mise en abîme, de méta-discours en permanence. On se demande où est le vrai.
On se demande où est le vrai et surtout où est le safe. Où sont les mécanismes de guerre.
Reste quand même là, donc,
vraiment, pour moi, c'est avant tout où est-ce qu'on est protégé. Ce que je vois, c'est que j'en discute à la rédaction de Nylon. Et Lucas Diaz, qui est un journaliste qui a d'ailleurs écrit sur la figure de la diva, m'a raconté qu'il avait remarqué quelque chose qui est, par exemple, la question de la proximité entre placard et safe space. Est-ce qu'il n'y a pas un retournement du placard qui serait en réalité le vrai safe space? Est-ce qu'on ne peut pas parler des concerts de Lil Nas X, qui est un rappeur gay, qui demande juste qu'on n'ait pas de téléphone portable? Et donc, est-ce qu'il y aurait un basculement à faire
plutôt que d'adopter l'ironie, finalement, en revenir au placard, c'est ça?
Mais c'est retourner tout ce que ça voulait dire. C'était qu'en fait, c'était entre nous absolument nécessaire, ce placard-là. Que c'était pas, on n'est pas seul dans le placard. C'est les autres qui sont dehors, c'est les autres qui sont pas rentrés à la fête, qui trouvent pas la porte. À l'heure où tous les dogmes, toutes les croyances, toutes les mythologies, même les mythologies capitalistes, ne sont qu'hétéronormées finalement. Il n'y a pas encore de troisième voie par la consommation. Donc, il y a un espace culturel à trouver et qui passe pas par ouvrir son porte-monnaie. Dans l'idéal.
Merci beaucoup, Alice Weifer. De vous, on peut lire. Donc, Le goût du moche, c'est paru aux éditions Flammarion. Je ne suis pas parisienne, éloge de toutes les françaises aux éditions Stock, mais aussi en poche. De Susan Sontag, Le style camp, dans une traduction de Guy Durand aux éditions Bourgois. Merci encore. Hey. Et merci à l'équipe de Sans Oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laure Dallest. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Noé Chaban. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le demander ou encore sur l'application Radio France.